Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour la présentation de Rendre les coups, boxe et lutte des classes. C'est présenté par Selim Derkaoui. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Selim Derkaoui, vous avez... Oui, il faut ouvrir les micros.
Ah, là, c'est bon. Ouais, c'est mieux comme ça.
Vous avez cofondé le journal Frustration. Vous êtes journaliste indépendant et collaboré régulièrement au Monde Diplomatique et à Mediapart. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. La rencontre sera modérée par Judith. Judith, salut. Enfin, merci beaucoup.
Bonsoir.
Aussi. La rencontre est non seulement amplifiée, mais sera dans un certain temps diffusée à la radio. Donc si vous ne voulez pas être enregistré ou que votre question soit coupée au montage, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup et bonne soirée.
Bonsoir tout le monde et bonsoir Céline.
Bonsoir.
Ce soir tu vas nous parler donc du livre Rendre les coups qui est paru aux Passagers clandestins, sous-titré Boxe et lutte des classes. Et du coup, c'est un livre qui a à la fois une enquête sur donc la boxe en tant que pratique de culture populaire, mais aussi pour parler donc de cette question de la lutte des classes. Et tu parles notamment des classes laborieuses et de l'immigration postcoloniale. Donc peut-être tu peux un peu nous parler de ta position, comment t'as conçu ce bouquin, d'où c'est parti et à qui il s'adresse aussi.
Ouais. Alors bonsoir, déjà merci d'être venu. L'idée du livre est venue à la base d'un documentaire que j'avais vu sur Mohamed Ali, sur Arte, et de discussions avec mon père, qui était boxeur amateur dans sa jeunesse dans les années 80. Mon père me parlait souvent de Mohamed Ali, non pas comme un boxeur, mais surtout comme une personnalité politique, militante, antiraciste, qui avait refusé de s'engager au Vietnam, qui s'était converti à l'islam. Donc, il m'en parlait pas vraiment comme un sportif, mais plus comme une figure comme ça, très importante dans sa vie, et notamment dans son militantisme aussi. Et du coup, je me suis dit, on parle souvent de la boxe aux États-Unis, dans les ghettos noirs américains. Et je me demandais alors, est-ce qu'en France, il y a une histoire immigrée, populaire et ouvrière similaire en France que celle des États-Unis ou celle de Cuba ou d'autres pays dans le monde. Et de fil en aiguille, j'en parlais avec mon père, je m'entretenais avec lui et je commençais à enquêter, à faire des reportages dans des clubs, dans la banlieue parisienne, dans la banlieue normande aussi, à Marseille également. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était vraiment un sport qui est pratiqué historiquement en France et que ce soit en amateur ou en professionnel, par des personnes issues de la classe laborieuse. Donc, c'est-à-dire ce qu'on dit les classes populaires en général, mais moi, je préfère utiliser le terme de classe laborieuse parce qu'il met en avant une conflictualité de classe à travers le terme de laborieux plus que populaire, qui est plutôt un aspect culturel et moins politique, disons. Et finalement, je me suis rendu compte que tous les entraîneurs, les coachs que je rencontrais étaient souvent des Maghrébins ou des Noirs aussi, comme mon père qui a été entraîneur et coach 10 ans de sa vie. Et au fur et à mesure, je me baladais, j'enquêtais et je me disais que finalement son histoire, celle de mon père, c'est une histoire commune à plein de boxeurs dans le pays. C'est une histoire ouvrière, une histoire immigrée aussi. Et je voulais le raconter comme ça en commençant à chaque fois le chapitre par une histoire de mon père, des exemples, quelque chose de très, très intime, pour ensuite élargir, tirer le fil et faire un peu le lien entre lui, ce qu'il me disait, et les reportages et les interviews que je faisais avec d'autres boxeurs, et ensuite aussi des boxeuses. En tant que journaliste, du coup, je me disais, mon rôle est de faire le lien un peu entre tout ça, entre les gens, poser les questions et surtout que finalement les interviews et les propos des boxeurs et des boxeuses soient non seulement du témoignage mais aussi des analyses, c'est-à-dire que partir de leur analyse de classe qu'ils ont sur leur sport, avec du recul aussi, en n'étant forcément plus la tête dans le guidon en tant que boxeur ou boxeuse avec les compétitions, avec un peu plus d'âge, etc. Et de mettre en avant et à l'honneur leurs analyses, et pas me mettre dans une position où finalement c'est que des témoignages qui viennent appuyer mon propos, et c'est plutôt partir de leurs propos, dont celui de mon père, pour ensuite tirer la ficelle.
Oui, c'est ce que tu dis à un moment dans le livre, c'était aussi une façon de rendre la parole possible à des personnes qui en sont souvent, dont la parole est confisquée en fait par le discours politico-médiatique. Et du coup, ce dont on parlait un peu tout à l'heure avant, c'est que ce qui est marrant aussi, c'est que donc, toi, tu n'avais pas de pratique de boxe avant de faire le livre. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ça?
Enfin,
de...
Oui. Du coup, alors oui. Moi, ce qui était important aussi, c'est que je me mettais pas forcément dans la peau de quelqu'un qui s'y connaît vraiment en boxe. J'ai découvert ce sport-là récemment aussi. Il y a un an et demi, à peine deux ans. Mon père, il m'en parlait assez peu. Et j'ai compris ensuite, en faisant le livre, j'ai compris pourquoi, en fait, il m'en parlait pas tant que ça et qu'il voulait pas non plus que j'en fasse moi-même. Parce qu'en fait, il se disait, comme aussi la boxeuse Aya Sissoko disait à sa propre fille, qu'on a moins de raisons politiques et sociales de faire ce sport-là, qui est très difficile, où justement mon père il avait ce propos-là en parlant de la boxe anglaise notamment, même si c'est vrai pour la boxe thaï, etc. aussi. Mais surtout la boxe anglaise, c'est les points, rien que les points sur le visage, et que quand on touche le visage, c'est une intégrité physique, mais aussi morale et politique qu'on atteint, qu'on touche. C'est les coups sociaux qu'on vit dans la vie en général, au quotidien. Pour mon père, dans les années 70-80, quand il était jeune, c'était les contrôles policiers quotidiens. C'était le mépris social qu'il pouvait y avoir au niveau de l'éducation nationale. Pas de l'école et des enseignants, mais plutôt de l'institution de l'éducation nationale. Toutes ces choses-là, quotidiennes, et aussi les difficultés au travail par rapport aux directions. Il était brancardier à l'hôpital, donc par rapport à la direction d'hôpital, qui devenait de plus en plus libérale, avec beaucoup plus de restrictions budgétaires qui l'atteignaient directement. En fait, lui, comme d'autres, c'est la politique qu'on vit dans la chair, au quotidien. C'est par exemple une réforme qui va toucher directement... une réforme, par exemple la suppression des contrats aidés, c'était Muriel Pénicaud, ça a affecté directement ma mère qui avait les contrats aidés. Donc c'est une politisation qui est dans la chair et qui est initiale et qui finalement tu peux pas y échapper. Et du coup la raison essentielle des boxeurs et des boxeuses et ce qu'il y a de commun, c'est ce rapport là à la politique dans la chair, le côté coups sociaux dans la vie, que tu ensuite es capable d'encaisser les coups ensuite sur le ring et aussi, par conséquent, de pouvoir les rendre. Et moi, j'en ai pas pratiqué à l'époque. J'en ai fait, là, pendant un an, pour écrire le bouquin. Et pas forcément en interrogeant les gens qu'il y avait dans l'entraînement au quotidien, parce que je voulais qu'ils restent un peu dans leur élément et qu'ils fassent pas attention à moi et qu'ils changent de comportement parce que je suis là aussi. Donc le coach était au courant et du coup, c'était un peu un deal entre nous, il n'en parlait pas, et que j'analyse des choses par moi-même, mais sans perturber un entraînement qui est extrêmement rigoureux, ça je le raconte aussi, qui est vraiment très très proche du travail à l'usine, chacun sur son sac, c'est millimétré, même le gong qui retentit dans la salle de manière un peu assourdissante, il est là un petit peu comme des coachs m'ont expliqué, il rappelle vachement le temps de travail ouvrier chaque 3-4 minutes et ensuite le repos. Tout ça me permettait de le constater. Après moi là maintenant je ne pratique plus et ça je l'explique aussi du fait que mes parents ils ont toujours dit que tu auras une vie un peu moins difficile que celle que nous on a vécue. Donc, tu n'as pas autant de démons à combattre sur le ring que moi, j'ai dû le faire à mon époque. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues ensuite de la bouche de boxeurs et de boxeuses avec leurs enfants et des enfants eux-mêmes aussi, qui me disaient qu'il y avait aussi parfois un changement d'époque, et que voilà, leur but c'était que on n'ait pas besoin de se donner corps et âme sur un ring. Du coup, je sais pas si c'était très clair. Oui, ça va.
Et ouais, par rapport à ce que tu disais là sur la boxe, c'est que tu décris assez bien dans ton livre effectivement ce rapport au corps. Et du coup, tu fais ce parallèle que tu reprends d'un des entraîneurs, corps de labeur, corps de boxeur. Et je sais pas, il y a une citation de Aya Sissoko qui dit que la boxe est une métaphore de nos vies et c'est aussi une métaphore du capitalisme, de l'exploitation des corps. Et je sais pas, il y a plein de choses là qui... dans le rapport à la violence aussi, parce que du coup, ce qui est présenté, donc, et la boxe comme autodéfense, c'est-à-dire comme façon de combattre la peur, de prendre conscience, parce que ton père, il parle de ça, il dit au début, c'était un mec qui n'était pas très à l'aise, ouais. Et tout, et en fait, il prend confiance petit à petit en se mettant à la boxe, et pouvoir sentir qu'on est en capacité de riposter. Et donc là, c'est vrai que tu fais pas mal tu donnes des exemples sur des questions politiques, donc en rappelant historiquement la boxe qui était ancrée, par exemple, chez les luttes, avec les luttes syndicales des mineurs dans les années 80 en Angleterre, en rappelant par exemple l'exemple de Christophe Détinger, le gilet jaune qui a boxé des flics pendant une manif et qui d'ailleurs s'est fait annuler sa cagnotte de soutien, ouais, lui. Comme quoi, donc oui, cette asymétrie, en fait, cette espèce de violence par le monopole de la violence légitime, donc de l'État, et qu'en face, la boxe permet une forme de réappropriation, d'une forme de contre-violence, donc de capacité d'autodéfense, de se sentir plus puissant. Ouais. Et à un moment, tu parles et tu interroges aussi, parce que tu dis oui, ça sert alors de catharsis d'une rage qu'on peut avoir. Et en même temps, parfois, ça, c'est utilisé par l'État pour canaliser la violence. Enfin, du coup, ils demandent. Enfin, tu peux peut-être en parler de ça.
Ouais. Alors oui, en fait, ce qu'ils me disaient tous, c'est que par rapport à au mépris social qu'il peut y avoir au quotidien, que ce soit au sein de l'entreprise, que ce soit à l'école aussi, le fait qu'on te réoriente en fonction de ta classe sociale dans d'autres endroits et que tu n'es pas vraiment maître de ton destin. En boxe, c'est ce que me disait beaucoup Aya Sissoko aussi, c'était une forme de dignité retrouvée à travers ce sport. Et notamment le fameux « quand on veut, on peut », très libéral, qui fait partie des mythes de la bourgeoisie qui sont tout le temps... tout en mis en avant médiatiquement ou politiquement, eh bien là, il y avait une manière d'appréhender ce concept-là, mais de le voir fructifier finalement au sein de ce sport-là, au fur et à mesure, d'avancer progressivement, de voir tout de suite les étapes, le travail paie en fait, d'une certaine manière, en fonction des entraînements, qu'il n'y avait pas de jugement aussi dans certains clubs. Et pareil, au niveau de la vague de désindustrialisation qu'il y a pu avoir dans les années 70-80, le ring, et notamment le club de boxe, devenait en France un moyen de retrouver du commun, qu'il n'y avait plus au sein de l'entreprise forcément, qu'il n'y avait plus au sein aussi, et mon père en témoignait régulièrement en tant que syndicaliste à l'hôpital public, où on faisait en sorte de marginaliser les syndicalistes, et ben il me disait que voilà, on retrouvait une espèce de conscience de classe, même inconsciente, dans le club, et de rapports qui pouvaient se faire très naturellement, sans jugement et sans honte sociale. Et du coup, là, ce que tu disais par rapport à l'État qui instrumentalise la boxe, c'est qu'en fait, dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, la boxe est surtout pratiquée par le prolétariat plutôt blanc, comme il y a des boxeurs comme Georges Carpentier dans le nord de la France, donc nord de la France, avec tout ce qui est ouvrier, lui il a travaillé un peu dans les mines aussi, donc il y avait forcément cette corrélation-là entre, comme tu disais, le corps laborieux à l'usine et en même temps, du coup, avec des ponts qui sont plus, plus cohérents et plus faciles d'accès ensuite à la boxe, qui est un travail justement. C'est un lapsus, mais qui est important, qui est tellement rigoureux dans sa discipline de fer que tu retrouvais un lien entre voilà, ton corps d'ouvrier et finalement ton corps de boxeur. Et ensuite, dans les années 60-70, avec les vagues d'immigration postcoloniale, la boxe a été de plus en plus, et notamment parce que sport qui coûte pas très cher aux mairies. Pour faire un ring de boxe, on peut l'improviser un peu partout. Il n'y a pas besoin de dispositifs comme des paniers de basket ou des choses comme ça qui peuvent coûter cher. Donc une implantation plus grande de clubs dans les banlieues. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai que de plus en plus loin. Et voilà, et du coup, dans les banlieues françaises, dans les années 70, et c'est comme si, en fait, il y avait, en tout cas en ce qui concerne la boxe, un peu ce reflet-là de l'histoire ouvrière et immigrée, c'est que finalement, il y a une population encore plus pauvre que la précédente qui la remplace sur le ring. Et c'est pour ça que dans les années 70-60, et ensuite après aussi, il y a beaucoup de boxeurs maghrébins ou noirs professionnels et amateurs, davantage que des blancs prolos. Voilà, c'est comme s'il y avait la France en bas de la France d'en bas qui se remplaçait sur le ring, et qu'aujourd'hui on a, là en 2023 ou même depuis un peu avant, de plus en plus de boxeurs issus des pays de l'Est qui ont encore ce rêve d'ascension sociale par la boxe. Et ce qu'a fait l'État entre guillemets assez récemment, c'est-à-dire en 2005, après les révoltes dans les banlieues suite à la mort de Zineb Ebouna, l'État a demandé à des clubs de boxe et notamment des entraîneurs de canaliser justement la violence des jeunes, donc les contacter, faire en sorte qu'il y ait des clubs dans certaines banlieues françaises, dans cette idée que ces jeunes-là, leur violence et leur colère est illégitime, on va déresponsabiliser l'État, on va responsabiliser plutôt les jeunes des quartiers et notamment les coachs qui vivent dans ces quartiers-là, qui sont souvent des parents en fait. Là en ce moment, suite à la mort de Naël, il y a des clubs aussi qui sont contactés pour canaliser cette violence-là. Et on criminalise vachement aussi les maires isolées des quartiers. Elisabeth Borne, pareil, il y a tout un discours là-dessus que les maires doivent rembourser les dégâts, etc. Donc il y a tout ce discours-là culpabilisateur et dont la boxe peut être instrumentalisée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'intéresser à ce sport de manière générale parce que celles et ceux qui le pratiquent, c'est des jeunes des quartiers populaires. Mais par contre, ils vont s'y intéresser quand ils se disent qu'ils peuvent capter la jeunesse et faire en sorte qu'elle ne se révolte pas suite à des crimes policiers ou à des injustices sociales et économiques classiques dans les quartiers. Et c'est tout ce, j'allais dire paradoxe, mais finalement, ce n'est pas vraiment un, mais plutôt un cynisme de la part des pouvoirs publics sur ce sport-là, et qui est d'autant plus hypocrite que vous avez peut-être remarqué qu'il y a de plus en plus de personnalités politiques comme Édouard Philippe ou Olivier Véran qui se mettent à enfiler les gants de manière très narcissique, parce que à chaque passage, que ce soit à la télé, sur Quotidien, enfin Édouard Philippe, à chaque fois qu'il passe sur Quotidien, il parle de son amour pour la boxe, ça m'a marqué. Et que voilà, donc finalement, c'est pas le sport qui peut déranger en soi pour sa violence ou ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de vertus dans la boxe, c'est-à-dire le côté, de surpasser, de se redonner confiance et de dignité à travers ce sport-là, le fait d'avoir du courage sur le ring, que c'est un sport très difficile, donc sport individuel le plus collectif, parce que il y a beaucoup de gens qui s'entraident au quotidien pour ne pas recevoir trop de coups aussi. Dans les vestiaires, il y a une solidarité qui se fait aussi entre clubs. Donc finalement, pour des personnalités comme Édouard Philippe, etc., le sport en soi ne dérange pas, mais c'était plutôt celles et ceux qui le pratiquent qui fait qu'il y avait une sous-médiatisation de ce sport-là, et moins aujourd'hui, parce que les classes dominantes se mettent à enfiler les gants. Et je prends l'exemple de Sarah Ouramoun, qui est boxeuse, championne, et qui me disait, finalement, c'était quand je suis arrivé à Sciences Po Paris que j'ai ressenti tout le mépris de classe par rapport à ce sport-là, de mes camarades de classe à Sciences Po, parce que finalement, c'était pas le sport, c'était plutôt elle, en tant que jeune femme immigrée, issue de l'immigration postcoloniale, qui pratiquait ce sport-là, vu comme un sport de banlieue. Et elle me disait, ironiquement, aujourd'hui, mes anciens camarades de Sciences Po vont boxer dans des salles gentrifiées à 50 euros la séance à Paris. Et du coup, voilà, encore une fois, en partant de son analyse à elle qu'elle en fait sur Sciences Po, après, j'ai fait le lien avec d'autres personnes comme Aya Sissoko ou comme mon père aussi, qui ont eu la même analyse et le même traitement différencié en fonction de qui pratique un sport. Et ça, on peut le multiplier dans d'autres aspects. Ça peut être la mode aussi. C'est une forme de réappropriation culturelle de classe. Pour la mode, c'est pareil pour le jogging, par exemple. ou des amis profs me disaient que le jogging était maintenant autorisé à l'école parce qu'il est porté maintenant par les classes dominantes, parce qu'il est à la mode, etc. Et qu'avant, il était interdit dans certains établissements parce que c'était les personnes qui le portaient, donc des Arabes et des Noirs. Et en interdisant le jogging, on interdisait plutôt soit des pratiques culturelles ou soit des modes de ces quartiers-là.
Il y a tout un chapitre où tu parles de ça, là, de cette récupération et cette gentrification de la boxe. Et que du coup, la boxe devient pour les personnes, donc les cadres et les bobos, etc., une sorte de métaphore aussi, mais une métaphore de l'auto-management où ils viennent pour décharger, pour pas que ça déborde sur le travail. Et du coup, ils ne se jouent pas du tout la même chose, quoi. Et dans ce chapitre, tu parles aussi d'une autre récupération de la boxe par des clubs de fachos. Et donc là, ils se jouent autre chose encore, mais peut-être tu peux parler un peu de ça.
Ouais, ça c'est un fait. Ah bah dis donc. Ouais, en fait, je parlais vraiment pas dans le micro depuis tout à l'heure. Oui, ça c'est un phénomène, bah pareil depuis une dizaine, quinzaine d'années. La boxe qui s'approprie, enfin que plutôt les fachos s'approprient de plus en plus. Ils ont ouvert pas mal de clubs à Lyon, à Paris. Ou alors ils boxent parfois aussi dans des parcs à Paris, donc on peut les croiser en train de boxer. Donc eux, effectivement, c'est dans une perspective de récupérer ce sport-là, en sachant que c'était des sports de quartier, donc ça ils le savent très très bien, et comme s'ils voulaient affronter dans une logique de guerre civilisationnelle les Arabes et les Noirs sur le terrain de la boxe, et aussi des antifas. Donc il les menace souvent sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur pas mal de vidéos de youtubeurs comme Papacito qui sont assez populaires dans la galaxie fasciste du pays. Et d'ailleurs Papacito, enfin je prends son exemple parce qu'il met pas mal de vidéos de boxe sur le ring en train de combattre, etc., avec un portrait de Mohamed Ali. Mohamed Ali lui-même qui s'est converti à l'islam. Enfin, du coup, il y a toute leur dissonance cognitive qui est illustrée en un exemple avec Mohamed Ali. Et ça, oui, c'est un phénomène qui est en plus qui se juxtapose, enfin, qui se voit complété par le MMA, qui est une discipline sportive, un sport de combat art martial mixte, où là aussi, qui est un sport qui peut être aussi de classe populaire également, classe laborieuse, mais en même temps aussi assez instrumentalisé et utilisé par que ce soit la police aussi et par des mouvements fascistes. Et souvent, ce que me disaient les boxeurs et les boxeuses, c'est qu'ils savent très bien que ces groupes, fascistes comme Papacito, etc., ne viendront jamais les confronter, les menacer. Voilà, parce que ils sont assez lâches dans leur manière d'être. Et du coup, ils ne vont jamais oser le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas provoqué sur le ring. Ils le font par message interposé sur Instagram. Ils envoient des messages, etc., mais ils ne vont jamais jusqu'au bout de la logique. Et eux, ils veulent aussi faire en sorte que ce sport-là devienne un espèce de sport noble, de sport entre blancs aussi, où on se boxe de manière très, très chic et distinguée. Et tout ça pour enlever toute la politisation de ce sport-là et toute son origine ouvrière et immigrée, en fait. Un peu comme les classes dominantes dans les clubs gentrifiés, même s'il y a beaucoup d'inconscients là-dedans. Souvent, quand on leur en parle, ils ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où ils en font, ça devient acceptable et plus accepté. Là, pareil, pour les fascistes en question, c'est quelque chose qui est de l'ordre de dépolitiser le sport et de se l'approprier.
Et ce qui m'avait fait un peu tilter aussi, c'est que là, dans le bouquin, parce que tu dis, bon, ok, c'est récupéré par les fascistes, mais aussi sur une conception un peu viriliste, comme ça, de la boxe, qui existe. Et d'ailleurs, il y a tout le passage, là, tout ton chapitre sur la place des femmes dans la boxe. Et du coup, tu dis oui, effectivement, c'est un lieu. Enfin, ça reste une discipline qui est très masculine. Tu rappelles que c'est un des sports qui a été ouvert aux femmes le plus tardivement.
Oui, fin des années 90.
Ouais. Et Et que donc à la fois ça joue comme espace de socialisation masculine, ce que tu rappelais de solidarité ou un peu même de safe space, à un moment tu utilises ce terme-là, entre plutôt hommes du coup, et en même temps tu as cette ouverture aux femmes et, qui se fait progressivement. Et donc là, dans ton bouquin, tu parles autant des daronnes de quartier, de leurs filles, et aussi de Aya Sissoko et d'autres personnes. Et tu as une citation de Elsa Dorlin, un moment où tu dis, mais en fait, pour une femme, déjà, rien que de passer la porte d'un club de boxe, c'est déjà un acte politique. Donc, parce qu'il y a aussi cette image de masculinité et de virilité, donc je ne sais pas si tu veux parler un peu de...
Et oui, Elsa Dorlin, en plus, quand elle utilise cette formule-là, il y a le film Million Dollar Baby de Clint Eastwood, où justement il y a toute la scène ou la séquence où la boxeuse ouvre la porte, et c'est toute une mise en scène qui reflète parfaitement le propos d'Elsa Dorlin. Et oui, du coup, c'est assez autorisé, assez tardivement en France. Et du coup, pendant toutes les années 2000-2010, Sarah Ouramoun ou Aya Sissoko m'expliquaient que c'était évidemment plus dur pour elle, il fallait s'adapter davantage, il y avait tout un code vestimentaire au niveau des cheveux, il fallait vraiment être un peu dans l'imitation, et tout en créant son type de boxe aussi. Elle me disait que ça dépendait des clubs. Elle, dans leur club, il n'y avait pas forcément de regard jugeant, il y avait plutôt une espèce d'interrogation, genre qu'est-ce qu'elles font là, est-ce qu'on peut boxer avec elles ou pas. Et au fur et à mesure, genre Aya Sissoko m'a raconté qu'elle a dû en faire deux fois plus pour s'imposer sur le ring, affirmer aussi qu'elle voulait boxer avec eux, s'entraîner avec eux, d'égal à égal, et que c'est pour ces raisons-là qu'elle avait encore plus la niaque sur le ring. Et Sarah Ouramoun me racontait exactement la même chose, comme si en fait elle cumulait à la fois des problématiques de classe liées aussi à l'immigration postcoloniale en tant que fille d'émigrée, et en plus le genre. Et que ces trois juxtapositions-là de colère et de rage qu'elles ont au quotidien faisaient qu'elles étaient encore meilleures, et que les coachs eux-mêmes, et notamment à Aubervilliers, c'est Saïd Benajem qui a le club d'Aubervilliers et qui a coaché Sarah Ouramoun. Et les deux, ils me disaient, notamment lui, que ça intéressait beaucoup plus de coacher des femmes aujourd'hui que des hommes pour ces raisons-là, en fait. Et ça, c'est en lui posant la question, et Sarah elle-même en lui posant la question aussi, qu'il a fait le lien et il a compris que c'était pour ces raisons-là qui sont intrinsèquement politiques, finalement, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs de boxe, que ce soit autogérés, d'autodéfense féministe, en non-mixité aussi. Dans le club de Massilia à Marseille, il y a toute une dimension inclusive aussi, LGBT, etc., que tu n'as pas forcément dans d'autres sports. Et il y avait cette phrase qu'avait mon père, qui était coach aussi à l'époque, de boxe, qui est finalement le sport où on peut finalement tous se retrouver sur le côté sport des opprimés, et dans une dimension un peu intersectionnelle finalement. Enfin, du coup, c'est un qui lie la classe, le genre et la race à travers ce sport-là. Et ça, c'est en discutant au fur et à mesure. Et Aya Sissoko me disait que quand elle boxait, elle n'avait pas conscience forcément de tout ça, de tous ces efforts à faire davantage, et que c'est avec du recul ensuite qu'elle a fait le lien et qu'elle s'est dit qu'elle était la meilleure pour ces raisons-là, en fait. Parce qu'elle est vraiment la meilleure, pour le coup.
Oui, une citation que là, je ne retrouve pas là tout de suite, mais que j'aimais bien dans le livre, qui disait que... parce que la boxe ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de la socialisation des corps féminins, parce que les corps dits féminins, du coup, on a tendance à essayer de maintenir certaines personnes, donc des minorités, je veux dire, de genre, de façon plus large, ignorantes de leur propre force physique. Et ça, je trouvais ça assez bien dit, effectivement. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est hyper important dans les clubs de boxe autogérés. Il y a aussi un autre aspect, parce que dans ton bouquin, à un moment, tu pars, donc au début, tu fais un peu tu poses un peu le théâtre comme ça des clubs de boxe. Donc, t'en as parlé un peu au début entre la banlieue cannaise, la banlieue parisienne, donc dans des zones instrumentalisées, des industrialisées. Et en fait, ça se joue à plusieurs niveaux parce que donc il y a ces zones anciennement de zones industrielles. Il y a donc la salle de boxe comme lieu social et il y a le ring lui-même comme lieu politique. Et t'en parles comme un lieu de mise en scène plus ou moins historique aussi du rapport de domination de raciale et de sa contestation. Et notamment, tu cites, je sais plus quel boxeur qui parle de ça, du fait que quand il se retrouve dans le ring, ça lui rappelle son logement, parce qu'il a vécu dans un tout petit espace, et qu'il est comme ça, il se retrouve acculé de la même façon qu'il a vécu un peu dans sa vie, et que du coup, il sent toute la niaque, justement, la rage revenir, mais dans cet espace qui rejoue, en fait, ça.
Oui, c'est ça. C'est Baillet Dame Cissé qui était boxeur. Il a vécu dans la Goutte d'Or et dans un tout petit appartement. Ils étaient 6 ou 7, énorme. Et il me disait que le ring était, comme tu disais tout à l'heure, le côté safe place. Et il retrouvait sur le ring un espèce d'espace un peu claustrophobique qu'il avait dans sa vie au quotidien, dans son appartement. Et pareil, quand il m'a dit ça... J'ai demandé ensuite à mon père ou à d'autres boxeurs et aux boxeuses ensuite, et ils m'ont dit tous la même chose. C'est qu'il y avait cet aspect-là, que t'as vraiment l'habitude d'un milieu assez vétuste et que tu le retrouves sur le ring, et que tu sais davantage trouver les portes de sortie. Parce que dans ta vie, tous les jours, tu dois toujours trouver un échappatoire, trouver une manière de bifurquer. Et sur le ring, c'est pareil. C'est toujours trouver un moment où tu vas, dans un tout petit espace où tu as l'habitude déjà d'être, trouver un moyen de t'échapper de ton adversaire, trouver un moyen de l'esquiver. Et c'est pour ça que Aya disait que c'était une métaphore de la vie, mais encore plus de la vie. Et elle le dit ensuite, c'est une métaphore de la vie des classes laborieuses plus, pas de la vie en général, parce que voilà, c'est une vie socialement déterminée, construite et politiquement ciblée.
Je reprends une petite citation d'Aya Sissoko, du coup, parce que quand elle parle de cette allégorie de la vie, elle dit que la boxe, ça lui permet de savoir temporiser et créer des moments, s'extraire de la temporalité imposée par les autres. Du coup, il y a ce rapport au temps aussi, du coup, presque à une forme de... à développer des tactiques et des stratégies. Et dans ton bouquin, à un moment, tu te demandes pourquoi peut-être ou comment finalement la question de la violence peut pas être retournée, plus de dépasser le ring et de cibler finalement la bourgeoisie, justement de revenir dans la lutte des classes.
Ouais. Ça c'est pareil, c'est des boxeurs qui m'ont dit ça ensuite, au fur et à mesure de la discussion. Merde, c'est con, toute cette violence-là qu'on a en nous. C'est vrai que plutôt que la mettre en scène parfois quand on est en amateur ou professionnel, où il y a l'argent qui rentre en jeu, il y a les paris manigancés, les choses comme ça, qu'on devient un peu de la chair, un bout de viande aux yeux des sponsors, pourquoi on ne retourne pas cette colère-là contre les classes dominantes? Alors finalement, en parallèle, ensuite, ils me disent oui, mais finalement, la boxe, ça nous a surtout aidé à retrouver, comme je disais tout à l'heure, une dignité, une confiance en soi, qu'ensuite tu peux retranscrire ailleurs. Mon père, par exemple, qui était syndiqué comme brancard, il me disait, je faisais toujours des ponts entre mon activité syndicale de lutte à l'hôpital et en même temps le fait de rendre les coups sur le ring. Donc c'était une, comme disait Aya Sissoko, finalement une métaphore que tu retranscrivais finalement dans tes combats quotidiens ou dans ta vie au quotidien finalement. Et après, voilà, pour ce truc de rendre les coups de manière très concrète, là tu parlais tout à l'heure de Christophe Détinger, gilet jaune, boxeur, c'était pendant les manifestations des Gilets jaunes, il a voulu défendre deux personnes à terre victimes de violences policières à ce moment-là. Donc il y a toute une vidéo où on le voit vraiment user de ses poings pour défendre ces personnes-là. Donc après, il y a eu toute la cabale judiciaire et politique contre lui, arrestations, etc. Emmanuel Macron qui dit qu'il a oublié les lois du ring.
Je sais pas si tout le monde a ça user de ses poings contre des policiers qui sont casqués.
Voilà, qui sont casqués, qui ont leur
attirail de policiers, quoi.
Exactement. Et ça, il m'a dit, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, Christophe Dettinger, il m'a expliqué que voilà, c'est venu naturellement, que ce n'était pas du tout prévisible, il ne s'y attendait pas de faire ce geste-là, mais que voilà, il m'a dit concrètement, en termes d'autodéfense, je l'ai utilisé à ce moment-là. Et il m'avait dit un autre truc aussi important, c'est que d'autres, des boxeurs... issus de l'immigration, me racontaient, dont mon père, que dans les années 70-80, la boxe était aussi, par rapport à la violence quotidienne, par rapport à la police ou aux ratonnades, une manière aussi d'autodéfense, ou en tout cas de continuité de cet environnement violent quotidiennement, et que dans la boxe, voilà, ils pouvaient retrouver une espèce d'autodéfense. Et Christophe Dettinger, lui, m'expliquait, moi, j'avais jamais eu besoin de ça, en fait, au niveau de la boxe, de ce truc-là, de rapport à la police conflictuelle, et que finalement, c'est pendant le mouvement des Gilets jaunes qu'il a, vécu des violences policières qu'il connaissait pas avant, comme beaucoup de Gilets jaunes, d'ailleurs. Dans les quartiers, c'était beaucoup plus commun des années auparavant. Et c'est là qu'il m'a dit, maintenant, j'ai compris, en usant de mes poings face à la police, ce qu'était le quotidien de mes camarades de boxe à l'époque en banlieue parisienne, parce qu'il en a fait un peu là-bas, maghrébins et noirs, qui vivaient ça, en fait, au quotidien. Donc, finalement, tout ce discours-là qu'il y avait, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi, mais au niveau des Gilets jaunes, au niveau de la violence policière, que les quartiers avaient vécu ça avant, et que du coup, on était un peu tous unis sous le coup de matraque politiquement, eh bien, Dettinger, il l'a compris à travers la boxe. Il a vraiment d'autant plus senti que, effectivement, il y avait des jeunes qui côtoyaient avant dans le club, vivaient ça au quotidien, et que lui, il a dû user de ses poings à son tour lors de ce mouvement social-là.
Et là, le fait que tu rappelles dans le livre qu'il n'avait pas prévu, il le décrit, je ne sais plus, c'est assez... Il s'est retrouvé malgré lui par réflexe. Et ouais. Du coup, il y a cette notion de réflexe qui est citée quand tu fais référence à Fanon. Donc Fanon qui parle du réflexe musculaire. Est-ce que tu peux expliquer, développer un peu cette idée.
Oui, c'est dans les Damnés de la Terre, du coup, que j'avais relu pour l'occasion, et j'ai fait des liens par rapport à ce qu'il disait par rapport au rêve du colonisé, de s'extraire de ses chaînes, de l'indigène, des rêves musculaires, et toutes ces choses-là, et qu'à un moment, cette violence-là n'allait pas forcément retourner contre les classes dominantes, mais contre nous-mêmes, donc il parlait de tous ces paradoxes-là, et du coup, j'ai fait des parallèles avec la boxe, notamment qui était aussi un sport qui était assez pratiqué dans l'Algérie coloniale à l'époque. Alors malheureusement, on manque de documentation à ce sujet, mais ça c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas toutes les archives disponibles, il n'y avait pas de documentation à l'époque. C'est aussi le problème du fait de la période coloniale où on ne pouvait pas se raconter nous-mêmes, ou mes parents et mes grands-parents n'ont pas de traces écrites de tout ça sur le temps, donc ça c'est quelque chose qui est plus général, du fait qu'on manque de traces tout simplement écrites de ce qu'on a pu faire ou dire. C'est tout ce lien-là que je voulais mettre en exergue, et pour moi ça paraissait évident qu'il y avait des liens entre ces rêves musculaires-là de l'oppression coloniale, et de faire le parallèle avec une oppression évidemment, toute proportion gardée, hein, mais liée à la police aujourd'hui. Il y a 870 morts, je crois que c'est le chiffre de Basta, de violences policières depuis les années 70-80. Donc tout ça, c'était un peu faire le parallèle et me dire que dans cette violence-là que tu vis au quotidien, comment finalement tu l'as fait ressortir, par quels moyens, que ce soit sportif ou autre chose. Et comment, de manière actuelle et plutôt contemporaine, il y avait des imbrications et des logiques similaires à l'époque coloniale à travers l'œuvre de Fanon, du coup.
À un moment aussi, tu te dis que finalement, en fait, la boxe en tant que pratique d'une forme de lutte des classes décoloniales, etc. Ce que tu disais aussi tout à l'heure quand tu disais ton père plutôt t'as pas incité à faire de la boxe, ou de la même façon qu'Aya Sissoko avec sa fille. Et à un moment où tu dis que dans une société idéale, en fait, ce serait quasiment une société sans boxe, parce que la boxe n'aurait plus de nécessité. Ouais. C'est vrai que c'est un peu étonnant sur le moment, mais ouais.
Oui, une société sans classe, peut-être une société sans boxe, mais voilà. Non, je pose le débat. Enfin, Aya était assez d'accord avec ça, elle a rigolé quand je lui ai dit. Mais voilà, ouais. C'était un peu la suite logique de tous ces raisonnements-là. Pareil, mon père, quand je lui ai dit, ça l'a fait rire. Il s'est dit, bah oui, ou alors une boxe, maintenant qu'elle existe, en fait, bah, maintenant qu'elle est là, et par tous ces aspects politiques et sociaux qu'on a dit, et ben plutôt se la réapproprier, comme c'est le cas aujourd'hui avec les clubs d'autodéfense féministe, les clubs autogérés, militants. Tout ça, c'est une manière de se réapproprier ce sport-là et le détourner de l'argent et du capital aussi, finalement. Que ce soit plus une course aux médailles, aux sponsors, où Aya Sissoko m'expliquait que, en fait, t'es vraiment vu comme une chair à canon. Et mon père, son rêve, c'était de faire de la boxe un sport qui soit de boxe éducative, de matchs et des combats entre personnes, mais voilà, détourné du capital. Vu que ce sport-là est très, très, très implanté et dans l'imaginaire collectif l'est tout autant.
C'est vrai que ça, tu parles pas mal aussi de l'imaginaire de la boxe et ce que ça appelle, donc ce fantasme d'ascension sociale. Et du coup, tu peux devenir, il y a une phrase où tu peux devenir en gros un nouveau riche, mais ça fait pas de toi un bourgeois. Là, on en a pas trop parlé, mais dans le bouquin. Pardon. Dans le bouquin, il y a pas mal de références au cinéma, dont plein de films que je pense un peu tout le monde a en tête, mais Rocky et ses frères. On t'a parlé de Million Dollar Baby. Et du coup, dans tous ces films-là, il y a souvent, en tout cas, une sorte d'ascension et de déclin. Et donc, il y a une sorte de désenchantement de cette espèce de miroir aux alouettes que serait la boxe, qui finalement, tu ne gagnes pas des mille et des cents, ce qu'ils disent. Je sais pas
ouais,
si.
Ouais. Oui, du coup, la boxe est le sport le plus représenté au cinéma. Dans la littérature, c'est dans le top 2 au moins. Hein. Même peut-être le top 1. Et en fait, ouais, dans la plupart des films, notamment, que ce soit dans Rocky ou même dans dans Raging Bull de Martin Scorsese aussi, il y a toujours cette idée d'ascension sociale par le sport et notamment la boxe, et ensuite de déclin un peu inévitable, où on te rappelle tout de suite que finalement, on te remet à la classe départ, que finalement, voilà, tu deviens peut-être riche ou tu peux gagner un petit peu d'argent, ce qui est quand même assez rare, notamment en France, quand tu passes pro, c'est quand même une infime minorité, même très, 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 très faible. Et qu'ensuite, voilà, la société te rappelle que voilà, tu n'étais qu'un corps laborieux et que tu n'appartiens pas à une nouvelle classe sociale qui a conscience d'elle-même. Donc la bourgeoisie, en fait, ça fait pas de toi un bourgeois, t'as pas ces codes-là, on te laisse pas forcément rentrer dans ces dispositifs-là. Et la boxe, voilà, te le rappelle assez violemment. Et c'est pour ça qu'Aya Sissoko me disait aussi que il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, surtout quand on enchaîne les niveaux hauts, où on pense que voilà, il y a le Graal qui arrive bientôt, la lumière. Alors que, comme elle le disait très bien, la société te rappelle très très rapidement qu'en fait, tu as été surtout un corps instrumentalisé et qu'à partir du moment où tu n'intéresses plus les sponsors, etc., la société, enfin les classes dominantes, par conséquent, tu n'es plus rien à leurs yeux, quoi. Et en fait, moi, j'avais été aussi marqué par c'était un dossier du Figaro sur la boxe un peu avant cet été. Et j'ai regardé et voilà, ils avaient dans le texte, en tout cas, il n'y avait aucun mot relatif à la classe sociale, populaire, c'était totalement dépolitisé. Et il y avait tout ce regard très bourgeois, en fait, sur ce sport, très esthétique, finalement, très épuré, de corps qui s'affrontent. Tant que ce n'est pas nous, ça va, on peut en faire des films ou... Et en parler comme ça, mais de manière très dépolitisante. Et ça m'avait assez frappé de comment ils étaient capables de sublimer quelque chose à leur manière, mais tout en marginalisant les gens qui le font. Donc ça, je reviens sur ce que je disais au départ. Et c'est pareil, c'est Aya et Sarah Ouramoun qui me disaient ça, c'est qu'elles en avaient un peu marre de l'esthétisation à outrance, alors que c'est quelque chose de un sport qui est intrinsèquement politique, très violent, et aussi qui est, comment dire, c'est du... voilà, je reprends les termes d'Aïe Sissoko, mais elle me disait c'est le sang, c'est les larmes, c'est le crachat, c'est la sueur, et ça n'a rien d'esthétique, ou en tout cas, comment eux, ils le perçoivent. C'est-à-dire qu'elle, elle me disait, mon père aussi, c'est que nous, on le rend esthétique par nous-mêmes, c'est-à-dire dans la pratique, en fait, pas dans la représentation que ça peut être. Donc, dans la pratique, ça va être comme Mohamed Ali, par exemple, est connu pour ça, de quasiment danser sur le ring, de mélanger un petit peu sport et danse, comme le film Billy Elliot, où le jeune est à la base boxeur, comme son père. Son père qui est aussi syndiqué, donc c'est ce que tu disais au départ, dans les luttes syndicales, notamment en Angleterre, où tu as besoin de gros bras face à la police, donc du coup le milieu syndicaliste et ouvrier anglais était souvent aussi composé de boxeurs, donc comme dans le film Billy Elliot, et qui lui ensuite devient danseur étoile. Donc c'est assez intéressant parce que finalement tout ce truc-là est résumé de danse et boxe à travers ce film, où mon père m'en parlait très souvent, et qui au lieu de fantasmer justement la boxe s'en détourne et parle plutôt de danse. Et du coup, le père de Billy Elliot dans le film, à un moment, voilà, il laisse un peu son fils partir, et comme si en fait la boxe pour son père était liée aussi au milieu ouvrier, que son père a fait tout pour qu'il le quitte, comme mon père avec moi d'ailleurs. Enfin, du coup, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais ouais, ok, ça va.
Et je sais pas s'il y a des questions un peu à ce stade-là, ou si vous voulez interagir, c'est possible.
D'où vient l'expression le noble art? Qui l'a inventé, ou est-ce qu'il y a une d'où ça vient?
C'est marrant parce que ça surprend énormément les boxeurs aussi et les coachs. Parce qu'à chaque fois, je posais à tout le monde la question noblard, qu'est-ce que ça évoque pour eux? Et en général, la réponse que j'ai, même d'un historien aussi, où lui-même, pour lui, c'est un peu vague l'origine. Donc, tu as le côté, alors pour l'historien, c'est début classe noble, qui pratiquait, mais vraiment au tout début, entre eux. Donc, justement, les clubs fascistes essaient de revenir à cet aspect très, 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 très originel. Et par la suite, ça a été vite un sport ensuite populaire. Et du coup, instrumentalisé par ces classes-là dominantes, parce qu'ils se disaient qu'ils pouvaient se faire de l'argent avec du spectacle et du show assez facilement. Donc ça a été vite détourné. Mais après, t'as aussi d'autres coachs et d'autres boxeurs qui, eux... comment dire, ce concept-là est encore plus intéressant les boxeurs et les coachs le voient, en fait. Ce concept-là. Parce qu'en fonction de la personne, ça peut différencier. Et par exemple, tu as des boxeurs qui me disent le noblard, c'est parce que on se touche le visage. Et c'est encore le côté de la dignité que tu as au travers ton visage, vraiment l'aspect du corps où tout de suite c'est visible quand tu prends un coup et que tu ne veux pas le montrer, tu veux te cacher. C'est tout de suite montrable physiquement dans la rue à quelle classe sociale tu appartiens parce que tu as le visage de telle manière. Donc il y a tout ça de noble aussi, d'oser se faire attaquer le visage, entre guillemets, et d'oser l'égratigner. Ça revenait un peu plus souvent, cette analyse-là. Mais voilà, pour l'aspect originel, c'est ça, hein, c'est noble, et ensuite basculer très rapidement parmi les classes populaires comme instrumentalisation pour se faire aussi de l'argent sur eux. Et au niveau de l'interprétation, il y a ce truc-là de noblesse retrouvée au niveau aussi de l'aspect artistique, de la danse, du fait d'être sur le ring et de mélanger tout ce qui est au niveau des gestes, au niveau des esquives et des répliques, comme s'il y avait tu pratiquais une sorte de ballet, en fait. Et comme disait Mohamed Ali aussi, il disait pas, je suis un peu fatigué, du coup j'oublie la citation exacte, mais il disait que je... merde, je l'ai plus, mais en tout cas il avait beaucoup de métaphores sur la danse, du coup qui est lié largement à ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'enchaîne. peut-être tu peux pas reparler un peu aussi de... Pour la préface, tu as fait appel à Médine.
Ouais.
Et pour la postface, à François Ruffin. Et du coup, ils ont deux approches. Et c'est plutôt chouette, d'ailleurs. Elles sont
complémentaire.
Complémentaire. Est-ce que tu peux parler un peu de ces deux invités de...
Medine, du coup, c'était, enfin, comment dire, au départ, je voulais le faire intervenir dans le bouquin. Medine, il pratique de la boxe, il a un club au Havre, son père était boxeur. Et en plus, il vient aussi, comme moi, de la banlieue des campagnes, c'est-à-dire la banlieue du Havre. Et du coup, il y avait beaucoup de points communs entre nous. Donc, je me suis dit que c'était très cohérent pour le fond de le faire intervenir en premier. Et aussi, dans une logique, premier concerné, t'ouvre du coup le bal d'une certaine manière. Et aussi de mettre en avant davantage, et à travers Medine aussi, on en a beaucoup parlé tous les deux, c'est quand on parle de banlieue, on parle beaucoup de la banlieue parisienne, avec une vision assez parisienno-centrée. Et on parle peu des banlieues des campagnes. C'est-à-dire des banlieues qui sont, moi par exemple j'ai vécu dans la banlieue cannaise, lui c'est la banlieue du Havre, toutes ces banlieues-là qui ont des liens forts à la fois avec le monde urbain, mais aussi avec le monde rural. Il y a des proximités qui sont assez fortes, que ce soit au niveau des lieux de travail, au niveau des sociabilités aussi, etc. Et par conséquent, par la suite, j'ai réfléchi aussi, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir aussi François Ruffin, qui lui incarne un peu plus le côté monde rural. Et François Ruffin, je lui ai demandé, c'est surtout parce que, comment dire, pour son intérêt qu'il a pour les petits clubs de foot, de football, pour le fait de parler de la culture populaire et un peu des choses aussi positives, un petit peu des joies et pas que des choses entre guillemets plombantes politiquement, et de se redonner un petit peu de la joie, quoi. C'est pas toujours simple. Et d'avoir les deux, du coup, ça, c'était très intéressant parce qu'il y a un truc complémentaire politiquement. Mais François Ruffin, c'était aussi un peu plus pour la forme en tant que journaliste. Du coup, comme on disait au départ, j'ai créé le magazine Frustration, le magazine web en 2018. Et je m'inspirais aussi un petit peu journalistiquement de François Ruffin, de son approche qu'il a, de partir vraiment de l'expérience vécue, du concret, d'ensuite monter en généralité, mais de toujours partir des citations, des témoignages, et que sans ça, il n'y a pas de base théorique sans le terrain et le concret, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, et c'est ça que j'ai voulu faire dans ce livre. Alors après, j'avais proposé ça, c'était en février-mars, donc c'était il y a un certain temps. Il y a des mois qui se sont passés aussi. Il y a des prises de position politique de François Ruffin, qui, moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais on en débat de temps en temps. Notamment ses prises de position suite à la mort de Naël, sur les banlieues. Je trouve qu'il est parfois un peu à côté de la plaque, mais on a souvent l'occasion d'en parler. Donc c'était plutôt pour la forme et aussi pour cette idée d'enjeux sur les décennies à venir, c'est de pouvoir rapprocher politiquement. Culturellement, c'est souvent déjà le cas, les classes laborieuses des banlieues et celles du monde rural, qui a un poids démographique qui est énorme, c'est 80%, 70% de la population française globalement, et que l'enjeu dans les années à venir, c'est celui-là. C'est tout l'enjeu qu'a Ruffin quand il parle souvent du fait qu'il faut reconquérir les classes rurales, même si, d'une certaine manière, elles sont déjà entre guillemets conquises, donc c'est un peu faux parfois de dire que c'est pas le cas, parce que politiquement ça l'est quand même. Mais voilà, dans toute cette idée là de créer du commun pour mieux appréhender le futur politique. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de prendre la parole? Toujours pas.
Merci. Déjà, c'est trop chouette de pouvoir vous rencontrer, parce qu'en fait, on est tombé sur votre livre par hasard. Hein. C'était quand même ici que tu l'avais acheté, je crois. Je vais raconter vraiment ma vie pendant quelques minutes, mais c'est pour faire du lien avec le bouquin. Nous, on est sœurs et on fait des arts martiaux depuis vraiment très longtemps, depuis enfant, quoi. Et c'est parce que dans notre famille, on fait aussi de la boxe depuis que mon père, en fait, nous a donné ça. Ouais. Et du coup, en gros, notre papa, il a fait 20 ans de prison. Et il a rencontré la boxe au sein de la prison. Okay. Et du coup, là, on racontait un petit peu... Enfin, je lui ai demandé un peu avant d'arriver pour avoir la petite histoire... Mais en gros, c'est lui qui a, avec un groupe de copains, fait organiser un peu, comment dire, il a organisé tout ça pour avoir des cours, enfin de faire des cours de boxe au sein de la prison. Et du coup, il me fait bon. C'est vrai que là, c'était la. Pardon, désolée, c'est hyper. Je suis stressée de prendre la parole devant tout le monde. Je me suis pas rendu compte, puis en fait, j'étais je parle devant tout le monde. Mais, en gros, ils ont monté une petite équipe, quoi, pour faire ça, pour faire de la boxe. Donc au début, c'était hyper. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient pas parce qu'ils se sont dit mais ça va se retourner contre les matons, tout ça quoi. Et en fait il s'est trouvé qu'il y avait des surveillants en fait qui faisaient aussi de la boxe. Ils ont fait mais ça pourrait être cool et tout, et du coup les syndicats aussi ont pu prendre parti. Donc il y en avait beaucoup qui étaient pas d'accord, et ceux qui pratiquaient étaient vraiment d'accord avec le fait d'avoir du matos en fait de boxe, tout ça. Donc ça a duré des mois et des mois parce que là, bon, c'était dans les années 90 à Saint-Maur. Bon, bref, c'était très compliqué. C'était des maisons centrales où c'est des longues peines. Donc tout prend du temps. Et bon, il y a eu du matos qui a été pris, donc des sacs de frappe au début qui ont été détériorés par on ne sait pas qui, un peu du sabotage, quoi, voilà. Et du coup, tout fier de raconter que quand ils ont reçu le ring, vraiment à monter tout ensemble, c'était vraiment, ils ont fait ça ensemble, quoi, les prisonniers et les matons et tout ça, quoi. Et du coup, c'était vraiment là qu'a pu aussi ils ont fait intervenir des boxeurs de tout ça. Il y a eu des relations entre prisonniers, enfin dans le sens des sortes de rencontres sportives, etc. Et du coup, là, moi, ça m'a pris du sens aussi de dire comment en fait comment on s'en sort aussi. Parce que ce qu'ils disent, c'est que oui, ça va se retourner contre les gens, mais aussi ça canalise et ça crée des camarades aussi. Et justement, le fait de prendre des coups, de recevoir des coups, il y a toute une philosophie autour de ça. Bref, merci. C'est trop bien.
C'est trop bien. Enfin, j'aurais adoré raconter ça.
C'est trop bien. Bah, on a des petites photos.
Mais tu diras si ton père, je dis pas trop de conneries, il trouve ça bien.
Bah on va lui offrir. Cool.
C'est super. Enfin, merci, c'est trop bien ce que tu as raconté. C'est hyper intéressant. Merci. Ouais, c'est trop beau, c'est trop bien. Merci beaucoup. Hein.
Si, je sais pas s'il y a pas trop d'autres prises de parole. Et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai... Après, il faut lire le livre. Parce que c'est vraiment... c'est super bien écrit. Et puis, et c'est vraiment dans une... ce qu'on disait au début. Donc, il y a ce côté enquête, tout ce dont on a parlé. Mais vraiment aussi l'hommage à ton père qui est très sensible et qui est très présent dans le livre. Et voilà.
Je me demande, c'est comment de faire des recherches, en fait, qui nous touche, enfin qui parle de soi en fait, peut-être de manière directe ou indirecte. Voilà, je me demande c'était comment pour vous d'écrire ce livre, de faire, je sais pas, de participer aux cours, de faire ces recherches. Voilà.
Eh ben, comment dire, au départ, quand j'en ai parlé à mon père, il était un peu, enfin c'était une non-réaction, c'était genre un peu timide et je disais pas très pudique quoi. En fait, et le plus dur au départ, c'est peut-être de me placer en tant que quand même journaliste en interrogeant mon propre père, mais tout en gardant une part d'intime, donc un peu d'équilibrer les deux. Ça, au départ, le faire parler aussi, c'était un équilibre à trouver, mais que tu trouves au fur et à mesure de discuter, en fait, de prendre confiance. Moi, avec mon père, j'ai fait, je sais pas, 5 ou 6 entretiens de 2 heures, 3 heures à chaque fois. De mettre à l'aise en mode discussion, comme si en fait on parlait d'un truc, on en aurait parlé différemment, mais là du coup il y a un enjeu et ça permet de le faire ressortir. Après sinon moi je me suis dit dans mes articles en général c'est la même méthode de travail, de commencer à faire le terrain, d'interroger plein de gens différents, et puis ensuite de faire un peu le lien dans tout ça. De me dire bah tiens, ça j'ai déjà entendu quelque part, donc du coup il y a quelque chose en fait, enfin il y a un truc à creuser. Par exemple, quand tu parlais du ring qui est un espace tout petit et que ça ressemble à son appartement et tout, bah ça je l'avais entendu 2-3 fois, et à partir du moment où je l'entends une fois, Bah après, je vais interroger la personne suivante que je rencontre et je vais lui dire, bah tiens, lui ou elle, il m'a dit ça. Du coup, qu'est-ce que ça t'évoque? Et en fait, au fur et à mesure de l'enquête, toujours en partant des gens, eh ben, tu t'aperçois que tu te documentes de cette manière-là, que tu en apprends en plus et qu'ensuite, tes questions sont de plus en plus ciblées, entre guillemets. Par exemple, mon père, après 4 entretiens que je faisais avec d'autres boxeurs et des boxeuses, je revenais ensuite faire un entretien avec lui pour lui dire, bah, tu vois, là, j'ai appris tout ça, on m'a dit tout ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, ce qui m'a permis ensuite de me dire, bah, tiens, finalement, je peux commencer chaque chapitre par son histoire, parce qu'effectivement, son histoire, elle est commune à des milliers de personnes dans le pays depuis des décennies, quoi. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ça va? Ouais. Ou... ouais, bah, la réponse un peu fataliste et celle qui ne l'est pas. Je vais commencer par celle qui ne l'est pas. Moi, je me dis en fait, c'est que ils ont, ce qui me rassure, c'est qu'ils ont toujours moins de talent, en fait. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, ils ont moins de talent, ils sont moins bons. Ça vient pas du cœur, ça vient pas de la chair. Et ça, on peut être tranquille. Genre, Edouard Philippe, il fait de la boxe, mais il sera jamais aussi bon que Aya Sissoko ou quoi. En stand-up, je pense qu'il y a plein d'exemples aussi. Je pense à... Tu connais certainement Mustapha El Atrassi, par exemple. En fait, il y a ce truc-là de garder, en fait, enfin, de cet aspect originel-là. Et peut-être d'en faire deux fois plus, de le mettre deux fois plus en avant. Lui, c'est ce qu'il fait, par exemple, c'est un stand-upper qui passait beaucoup dans les médias avant, puis après qui s'est dit « j'ai pas besoin des médias pour exister », il fait des millions de vues sur YouTube, enfin qu'on aime ou pas, mais en tout cas, il est quand même assez talentueux, et il s'est dit bah, « je vais créer un espace autosuffisant et je vais leur prouver que finalement, j'ai pas besoin des médias de visibilité parce que je fais des millions, parce qu'en fait, je suis bon, et que du coup, les gens, ils le savent, et que voilà, créer des espaces un peu de... ouais, autogérés, finalement. » Et je pense que cette récupération-là, elle est, comment dire, elle en dit long politiquement et socialement, mais qu'il y a pas mal d'exemples qui fait que, voilà, enfin, vu qu'on est meilleur, enfin voilà, enfin, tu vois, je reviens sur ce que j'ai dit, mais comment dire, ouais.
Gardez la nerf, puis je vais être dans le bouquin, à un moment, tu parles d'un entraîneur qui dit qu'il a ouvert un club de boxe genre dans Paris et qui voit bien qu'il y a de plus en plus de bourges qui viennent s'inscrire et qu'il était pris un peu dans le dilemme et qu'en fait il dit bah en fait ok la bourgeoisie pourra jamais rendre les coups puisque enfin ça la concerne pas, c'est même pas dans sa vie quoi, dans son corps, par contre elle peut rendre l'argent et du coup ils peuvent financer le club pour le matos et pour que les autres et qu'en fait il le dit vraiment comme ça quoi et c'est assez marrant c'est une autre option
c'est
pragmatique voilà
j'avais pas pensé à citer ça alors
on peut clore et puis continuer à papoter aussi en off hein, c'est possible
ouais, grave.
Bah, merci du coup Céline et,
bah, merci à merci toi à et merci à vous d'être venu.
Merci à tout le monde. Ouais.
Merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venu ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre. Retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.